c'est l'Hyperforum en direct de la Carto où Radio Primitive a posé ses studios.
Et c'est sur ce morceau plein de gros mots, on ne félicitera pas le programmateur, que nous reprenons. Hein, on était
oui,
en train, on faisait des commentaires hors micro. Que nous nous retrouvons à nouveau en direct de la cartonnerie dans le cadre de l'Hyperforum. Et autour de cette table, à présent, nous accueillons Sophie Rollin de Césarée, qui va nous parler, bien sûr, des actions de Césarée. Alors, on va faire semblant de ne pas être au courant, parce qu'en plus, comme Radio Primitive et Césarée ont des actions en commun pour cette année 2024, on va faire les naïfs.
D'accord.
Mais, néanmoins, pour les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas des assidus de nos ondes, ce qui est bien dommage, il va falloir faire un petit point obligatoire, redéfinir ce qu'est Césarée, les grandes missions de Césarée, avant de partir sur toutes ces actions culturelles que porte Césarée tout au long de l'année.
Eh bien, volontiers, chère Émilie, et bonjour à toutes et à tous. Vous qui êtes peut-être, je ne sais pas, à la terrasse d'un café ou sur votre balcon, confortablement installé sur un transat. Voilà, donc ravie d'être avec vous pour ce moment.
Donc, Césarée, qu'est-ce ? Alors, la cartonnerie n'est pas très loin de Césarée. On a parlé tout à l'heure avec Jazzus, d'ailleurs, du quartier musique. Césarée, c'est à quelques pas, mais qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est Césarée ? Eh bien, nos docks et moi, il suffit de longer ce beau mur de graphe hein, entre la cartonnerie et les docks et moi pour se rendre dans nos studios. Césarée, c'est un centre national de création musicale, c'est un label au même titre qu'une scène des musiques actuelles. Mais à la différence, c'est que des SMAC en France, vous en avez à peu près 90. Et des CNCM, donc Centre National de Création Musicale, il en existe 7. Et Césarée est le seul de toute la région Grand Est. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien...
Je laisse les points de suspension.
Les points de suspension. notre mission principale, c'est de soutenir l'écriture de musique nouvelle. Et alors là, vous vous dites, mais c'est quoi ? C'est quoi les musiques nouvelles ? Eh bien, c'est plein de choses. Ces musiques, elles sont multiples. Elles peuvent être des musiques électroniques, exploratoires. Ça peut être des musiques acoustiques, électroacoustiques, acousmatiques. Vous voyez, je vous ai cité des drôles de noms. Vous pouvez prendre un dictionnaire si vous en avez besoin. C'est un lieu de création avant toute chose. On a 3 studios. Dans ces studios, chaque semaine, on accueille des artistes différents qui viennent y travailler. C'est vraiment voilà, un lieu qui leur permet de faire de la recherche sonore, un lieu de répétition, un lieu d'échange, un lieu de cogitation, vraiment. Ça, c'est une de nos principales missions. Ensuite, on fait de la diffusion et ça nous arrive parfois d'organiser des événements avec la cartonnerie ou d'autres acteurs culturels de la ville de Reims et d'ailleurs. Et puis aussi, bien évidemment, il y a la transmission, ce qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met en place avec les différents publics pour leur permettre effectivement à leur tour d'être des acteurs de la musique, du son. Et puis, il y a une autre activité qui est celle de produire des spectacles. Voilà, donc on accompagne des artistes de A à Z pour leur permettre de rendre concret une idée. Et donc actuellement, on a d'ailleurs un spectacle, enfin une installation qui est présentée au FRAC jusqu'au mois de septembre, qui s'appelle Le Jardin, Incantation, Incarnation. Voilà, d'Uriel Barthélémy.
Alors, c'est aussi quelque chose qui a été dit à d'autres invités autour de cette table. On ne peut pas faire catalogue puisque la plupart des gens qu'on reçoit aujourd'hui portent énormément de projets. Néanmoins, si on voulait valoriser certaines actions à destination des publics, donc vraiment ces actions qui s'inscrivent dans soit le champ de l'éducation populaire, soit en tout cas le champ de la médiation culturelle, desquelles on pourrait parler aujourd'hui ?
Eh bien, c'est naturellement, étant donné qu'on est à la cartonnerie, on pourrait parler d'un itinéraire rémois d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Machine Musicale. Et c'est la deuxième année qu'on le mène, conjointement avec Anaïs Chittinger, donc de la cartonnerie. Et ça se passe vraiment très bien, ça permet à des jeunes d'école élémentaire, eh bien, avec un artiste, l'année dernière, on a travaillé avec Mathéo Caburet. Et maintenant, on travaille avec Alexandre Lebar. Connu aussi sous le nom de Brice Barre. Et la proposition consiste à permettre à des jeunes de créer leurs propres morceaux, à partir d'instruments électroniques.
Alors, on le verra avec nos prochaines invités, on va reparler des itinéraires et du pourquoi, du comment, mais sans spoiler la suite de cette émission, néanmoins, les itinéraires se déroulent toujours en plusieurs temps. Si on prend ce cas précis, est-ce qu'on peut nous présenter le découpage de ces séquences pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte vraiment de tout ce que ça peut englober pour les participants ?
Oui, donc c'est des projets qui se déroulent en trois étapes. Donc imaginez-vous, chers auditeurs, auditrices, vous êtes un élève. Premier rendez-vous, eh bien, ça s'est passé à la Carto, un lundi matin, et les jeunes ont pu écouter un concert d'Alexandre Lebar, et ensuite ils ont même dansé. Et ce qui était super, c'est qu'au départ, les jeunes n'osaient pas danser.
Le lundi matin, c'est fou.
Oui, puis c'était la rentrée. Donc les jeunes n'osaient pas danser. On a d'abord les filles, parce que les filles sont souvent plus partantes pour la danse. Donc elles se sont mises à danser, etc. Puis après, il y a des garçons qui se sont levés. Et ils dansaient chacun de leur côté. Et puis après, ça a été la grosse boum. Et ça a même terminé, et oui, en chenille. Tout à fait. C'était assez extraordinaire. On a adoré ce moment.
Je n'avais pas du tout cette vision de Césarée. Le coup de la chenille m'a scié.
Tout à fait. Comme quoi, c'est des musiques accessibles. Oui, oui, oui. La deuxième séance, elle a eu lieu en classe. Donc, Alexandre est allé avec son matériel dans la classe, ce qui a permis aux jeunes de manipuler les instruments. Et puis, la troisième et dernière séance a eu lieu à Césarée. Il y a eu une visite des studios de Césarée pendant qu'un groupe était en train de composer. Et c'est une musique qui s'est composée de manière instantanée. Et c'est chaque petit groupe qui finalement a apporté sa pierre à la composition. Ses notes à la composition. Et ça s'est terminé par une séance d'écoute. Et ils ont même trouvé un nom à cette création. Il s'agissait de Bubble Space. Voilà, donc des projets en trois étapes et c'est vraiment super.
En quoi c'est important pour Césarée de proposer des actions en lien avec la médiation culturelle, l'éducation artistique et culturelle ?
Eh bien, c'est fondamental dans le sens où ça permet de faire découvrir des musiques, de faire rencontrer des artistes. Et aussi, c'est tout un monde sonore et musical auquel on n'a pas forcément accès, parce qu'encore une fois, les musiques qu'on soutient, c'est des musiques qui sont très peu diffusées, que ce soit à la radio ou à la télé. Et puis aussi, les jeunes, ils ont une vision, comment dire, et ce qui est normal, c'est aussi en lien avec leur durée de vie, j'ai envie de dire, ils ont une vision assez restreinte des artistes, de la musique, et pas que de la musique. Il pense que il faut être absolument connu pour faire de son métier le métier d'artiste ou de musicien, ce qui est quelque chose de totalement erroné. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus la notoriété qui fait la qualité d'un artiste. Voilà. Donc c'est vraiment important d'ouvrir les portes de Césarée à tous ces jeunes. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils adhèrent énormément à ces musiques-là parce que elles sont ludiques. En réalité. Et les jeunes, les enfants aiment jouer et qui continuent à jouer. Parce que c'est avant tout ça qu'on propose. Jouer. Et si on prend le premier sens de ce mot, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Amusons-nous. Soyons créatifs.
Est-ce qu'il y a une autre action que tu aimerais mettre en valeur aujourd'hui autour de... On n'a pas osé faire de l'autopromotion, alors si je peux te lancer une piste comme ça.
Bien sûr, parce que moi j'adore ce projet. En plus, on a Marion qui va prendre la parole juste après de la ville de Reims, voilà, qui va faire la transition. C'est un autre itinéraire, effectivement. On s'est rencontré Émilie au Cellier. C'était la fin de l'année, en tout cas, pour les itinéraires. Et on s'est dit, tu m'as dit, et si on montait un itinéraire pour les tout petits. Et alors là, moi, je dis oui, 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 car les tout petits, ils sont encore une fois très, très ouverts.
Très plastiques.
Oui, très plastiques. Et puis, ils prennent les choses comme elles viennent, et de manière spontanée, sans faux semblant. Voilà. Et ça, j'aime. Et donc, l'idée, c'était de leur proposer de créer leur propre émission radiophonique. Ça s'appelle donc Premier Pas Radiophonique. Et on a accueilli, là, cette année, déjà une première classe, des grandes sections de maternelle. Et puis la journée, la première séance qui a été organisée à Radio Primitive, formidable. En plus, toute l'équipe de Radio Primitive était mobilisée. Et quatre petits groupes, les enfants, vraiment se sont amusés, ont pris plaisir de circuler d'une pièce à l'autre, les voir avec les casques sur les oreilles, avec les petits enregistreurs. Et ça a été vraiment un beau projet. Et puis, il y a une trace. C'est ça qui est bien dans le sonore, dans le musical.
Moi j'avais également envie de voir avec toi, parce qu'on a parlé ce matin, alors je ne sais plus avec quels invités c'était, mais de l'effet waouh. Et il est vrai que pour des publics, parce qu'il y a eu une restitution pour les élèves et les parents d'élèves qui sont venus à Césarée. Il n'y en avait aucun parmi les parents, il me semble, qui n'avait jamais franchi les portes de Césarée. Donc c'est aussi amener des publics différents dans des lieux de diffusion. Et bon, vous avez quand même un son assez incroyable à Césarée. Donc il y a eu un effet waouh assez immédiat. Et au niveau de... On parlait de renouvellement des publics avec le directeur de la cartonnerie. Il se passe quelque chose aussi d'important, je pense.
Tout à fait, parce qu'il y a une nouvelle direction depuis novembre 2022, Philippe Gordiani. Et c'est quelqu'un qui est dans cet esprit, dans cette volonté d'ouverture, faire connaître le lieu, les activités, faire rencontrer effectivement... les artistes et des publics, d'où le festival In Situ, première édition qui a eu lieu là en avril 2024, et ça a été vraiment un beau succès, on est très contents. Et effectivement, on accueille des nouveaux publics, et tout à l'heure je vous ai parlé de ces jeunes qui faisaient la chenille dans le club de la cartonnerie, et ce soir-là, quand les jeunes ont pu entendre leur création radiophonique avec leurs parents, eh bien ça s'est terminé en 1, 2, 3 soleil dans le studio Luc Ferrari. Donc comme quoi ils se sentaient vraiment très à l'aise, un peu comme à la maison. Et c'est vrai que c'est important effectivement que les portes du studio soient grandes ouvertes, parce que comme c'est avant tout un lieu de création, parfois on se dit mais qu'est-ce qui s'y passe, et là vraiment on vous ouvre les portes, venez. Et on va vous faire entendre des choses incroyables. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous n'aimerez pas, mais au moins, sachez que ça existe et vivez l'expérience.
Bien, merci beaucoup Sophie. Nous, on va faire une très courte pause musicale puisque nos prochaines invitées sont déjà à nos côtés, donc Marion Grange et Céline Robinet, respectivement de la direction de la culture et de la direction politique de la ville de Reims, bien sûr. Donc dans quelques minutes, on se retrouve pour continuer à parler de médiation culturelle, de AC, des itinéraires, puisqu'on a beaucoup parlé des itinéraires, mais on a bien fait attention à ne pas trop en dire. Donc la suite dans quelques minutes, toujours en direct de la cartonnerie.
Et merci à Anaïs pour son invitation.
C'est l'Hyperforum en direct de la Carto, où Radio Primitive a posé ses studios.
De retour donc en direct de la cartonnerie dans le cadre de l'événement Hyperforum. D'ailleurs, on vous invite à nous rejoindre. Non seulement vous pourrez assister à cette émission, mais de plus, sachez qu'il s'y passe encore beaucoup de choses, puisqu'à 16h débutera un spectacle et qu'il vous est encore possible d'y participer. Avec nous, autour de la table, le studio provisoire mobile de Radio Primitive, nous recevons donc Marion Grange de la direction de la culture de la ville de Reims et Céline Robinet de la direction politique de la ville de Reims aussi, virgule. C'est toujours un peu compliqué de faire ça très très proprement. Merci à vous de nous accorder un peu de votre temps, car nous savons que l'agenda à la ville est plus que chargé. Donc merci de nous rejoindre. Est-ce que c'est possible pour débuter de nous expliquer rapidement quel est le rôle de la direction de la culture ? Ça, je pense que c'est à peu près clair pour les auditeurs, auditrices. Politique de la ville, peut-être un peu moins. Donc est-ce qu'on peut déjà refaire un petit point ?
Bonjour. Alors oui, je vais commencer par la direction de la culture, qui effectivement appartient à la ville de Reims. C'est une direction, une des plus grosses directions en réalité de la ville de Reims, parce qu'elle réunit tous les établissements culturels de la ville qui sont en régie. Alors en régie, ça veut dire les bibliothèques, par exemple. Il y en a quand même 7 sur le territoire. Il y a aussi tous les musées, le planétarium, beaucoup d'équipements comme le conservatoire aussi. Voilà, donc tout ça, c'est la direction de la culture. Ça fait presque 300 agents quand on a compté les médiateurs, les professeurs, les bibliothécaires, les agents des musées. Voilà, tout ce monde... à une programmation qui lui est propre, c'est-à-dire que chaque établissement a sa programmation, mais il y a une colonne vertébrale, la direction de la culture, qui vient faire le lien, et puis fédérer en fait toutes ces forces vives.
Bonjour, donc pour la direction de la politique de la ville, c'est vrai qu'on a moins l'habitude d'en entendre parler. Donc cette direction, elle a pour mission d'animer le contrat de ville en fait sur les six quartiers prioritaires en politique de la ville, puisqu'on a signé un nouveau contrat de ville jeudi matin. Et l'objectif en fait de la direction de la politique de la ville, c'est d'amener des moyens supplémentaires en fait sur ces quartiers pour réduire les inégalités de développement entre ces quartiers et le reste de la ville. Et aussi de pouvoir coordonner les actions qui se passent sur les territoires est un plus par rapport aux différentes politiques de droit commun qui sont mises en place sur la ville de Reims, notamment avec la direction de la culture, mais également tout ce qui va être jeunesse, sport, lié à l'événementiel dans les quartiers.
Donc, vous venez de le dire, il y a beaucoup de transversalité également entre les différents services de la ville. Et on a parlé des agents, donc des structures qui sont en lien direct, qui sont des régies municipales, mais il y a également tous les acteurs, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'ils soient associatifs, privés, qui travaillent, ou en tout cas qui sont en partenariat avec les différentes directions. Est-ce que c'est possible aussi de nous parler un peu de cette envie de fédérer les différents acteurs qui sont sur le territoire ?
Oui, alors effectivement, on a du coup à la ville ce rôle un peu d'ensemblier, ou en tout cas d'être attentif, effectivement, et de connaître les projets qui se développent sur le territoire, et vous l'avez dit, qui soient portés par nos établissements en régie, mais aussi qui sont portés par tous les acteurs culturels du territoire, et ils sont très nombreux. Donc, la mission de la direction de la culture, c'est de les identifier, de savoir les projets qu'ils portent, leurs spécificités. Et puis ensuite, c'est s'assurer qu'en fait, il y a un maillage du territoire, ça nous intéresse beaucoup, et que toutes les structures ne vont pas dans le même sens ou pas dans le même quartier ou ne produisent pas les mêmes actions. Et en ça, la transversalité avec la politique de la ville, c'est bien de pouvoir accompagner des porteurs de projets, parce que la ville ne porte pas de projet dans le cadre du contrat de ville, mais c'est plutôt identifier quels sont les besoins sur le territoire et quels sont les acteurs qui ont envie aussi d'avoir des actions, des regards spécifiques pour accompagner ces quartiers qu'on dit prioritaires. Donc on travaille ensemble à construire des projets et on les produit pas, mais plutôt on est dans l'accompagnement et on essaie de guider au mieux avec les partenaires de territoire et toute la connaissance qu'a Céline, parce que Céline, elle a une connaissance très, très large en fait. Ça va de l'emploi, de l'insertion, toutes ces politiques en fait qui sont transversales et puis qui viennent à un moment donné se rejoindre pour agir plus spécifiquement sur un besoin plus précis.
Alors ce matin, avec entre autres des directeurs et directrices de maisons de quartier, ils ont parlé d'actions qui se déroulent dans les maisons de quartier et on n'a pas parlé spécificité administrative, mais nous savons que certaines s'inscrivent dans le cadre de politique de la ville. Mais ils ont également parlé du label EAC. On s'est dit qu'on en reparlerait avec vous cet après-midi. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui se recoupent, tellement d'actions différentes et d'acteurs que synthétiser tout ça et faire même comprendre au public l'ampleur, aussi bien au niveau des acteurs impliqués, du nombre de publics que ça représente, n'est pas un exercice facile. Mais est-ce qu'on peut déjà peut-être reparler de ce label EAC, de l'impact qu'il a sur la ville, des actions qui en découlent, et faire un point spécifique par rapport aux actions portées par politique de la ville ?
Oui, alors effectivement, la ville est labellisée 100% EAC, donc pour 100% éducation artistique et culturelle. C'est un label qui est donné par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, avec donc un objectif, un label qui est donné pour 5 ans. Et l'objectif qu'on se donne, c'est d'avoir une action culturelle forte pour chaque enfant du territoire de ses 0 à ses 18 ans. Et évidemment, pour faire ça, pour obtenir ces résultats, on ne peut pas le faire seul. Et c'est bien là qu'il faut s'assembler, il faut construire des partenariats et qui sont du coup toujours de plus en plus larges. Donc le premier step, c'était effectivement d'avoir tous les acteurs culturels du territoire à nos côtés. Et ils le font très bien parce que ici, on a la cartonnerie. Il y a une politique Carto Kids, jeune public extrêmement forte. Césarée s'est exprimé un peu plus tôt et c'est pas entre guillemets leur spécificité, mais ils le font beaucoup aussi. Donc on peut déjà en fait aussi compter. En fait, on n'aurait pas eu ce label et on n'aurait pas eu l'idée de candidater à ce label si on n'avait pas identifié que sur le territoire tous les acteurs jouaient vraiment cette carte. C'est la première chose. Et puis ensuite, effectivement, le faire qu'entre établissements culturels, c'est pas suffisant. Il faut aller chercher les forces vives un peu plus loin, dont les maisons de quartier avec lesquelles on collabore. Elles sont très nombreuses sur le territoire et elles ont justement la particularité d'être implantées sur tous les quartiers de la ville. Donc c'est un partenariat extrêmement fort. Et puis la CAF aussi nous a rejoint parce que l'enjeu, c'est de travailler aussi dans le cadre de ce label sur ce qu'on appelle tous les temps de l'enfant. Donc évidemment avoir des actions en temps scolaire, j'ai envie de dire que c'est le plus facile parce que là on touche le plus de jeunes possible, mais c'est aussi avoir un regard sur qu'est-ce qui se passe sur le temps périscolaire, qu'est-ce qui se passe sur le temps familial, des samedis, des dimanches et dans les maisons de quartier. Voilà.
On nous a parlé longuement, Monsieur d'Argencourt, par exemple de la proposition des musées nomades sur Épinette. On est revenu sur cette action. Est-ce qu'on peut également la réévoquer avec vous ? Parce que ça paraît être un temps fort, en tout cas, pour les publics. Nous y sommes allés en reportage. Pour les maisons de quartier, c'est assez, je trouve, parlant. C'est un bon exemple d'action EAC proposée sur un territoire et qui touche du public qui, habituellement, se rend peu au musée. C'est quand même une réalité.
Oui, alors en effet, alors le principe, c'est de développer ce qu'on appelle « aller vers ». Et effectivement, si tous les publics ne viennent pas au musée, alors pour une bonne et simple raison en ce moment, oui, aussi, là, c'est que le musée est en restructuration, en grands travaux, et il va réouvrir en 2026. Alors il se passe beaucoup de choses dans ce musée en ce moment, et les équipes travaillent vraiment beaucoup à ce que sera le musée de demain, et sur le volet jeune public notamment, parce que ça sera vraiment une priorité. Donc comment on réinvente un musée à hauteur d'enfant ? Et puis effectivement, parce qu'on ne peut pas se taire, on ne peut pas être absent du territoire pendant 3 ans, 4 ans de fermeture, l'idée a été de développer ce qu'on appelle effectivement le musée nomade. Et là, on a un peu inversé les choses, c'est-à-dire que plutôt que de proposer des collections qui iraient en itinérance dans la ville avec des actions de médiation, ça a plutôt été d'aller dans une maison de quartier, en quartier politique de la ville notamment, et de solliciter les habitants et de leur demander, parmi effectivement les œuvres, la grosse collection du musée des Beaux-Arts, quelles seraient les œuvres qu'ils auraient envie de mettre en avant et de voir circuler les thématiques qui leur étaient chères. Et c'est à partir des habitants, en fait, que le musée nomade s'est construit, avec l'accompagnement d'artistes aussi, qui sont venus réinterpréter ses œuvres et faire toute cette médiation. Donc aujourd'hui, le musée nomade, il s'est posé pendant presque 2 ans au QG, donc il était dans le quartier Orgeval, et puis il va poursuivre son itinérance jusqu'à la réouverture du musée. Je pense qu'il continuera d'ailleurs probablement de circuler ensuite, parce que c'est une belle réussite. Et en ce moment, il est plutôt sur le quartier, effectivement, Épinette, Jean Jaurès.
Il y a une volonté de politique de la ville de faire, on en parlait également hors micro, de déplacer les cultures avec un S et différentes formes de culture, en prenant en compte et en faisant avec les habitants.
C'est effectivement avec le nouveau contrat de ville, on a un axe fort qui s'appelle celui de l'émancipation, où en fait la culture occupera une place importante comme les actions aussi sportives. C'est cette idée en fait d'aller vers, Marion l'a souligné, voilà, d'aller vers les publics et permettre en fait à tous d'accéder à la culture. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans la politique de la ville, souvent j'entendais les habitants, mais en fait c'est pas fait pour nous. Et l'objectif, en tout cas, du contrat de ville, il est aussi celui-ci, c'est de pouvoir amener aussi dans les quartiers l'accès à la culture, favoriser la mixité aussi, parce que c'est des sujets qui nous tiennent aussi à cœur. Et dans tout ce qu'on peut travailler, en tout cas, sur l'accompagnement associatif, à pouvoir avoir aussi des équipements culturels qui soient implantés dans les quartiers ou tenter des expérimentations. J'ai en tête, par exemple, sur le quartier Croix-Rouge, la boussole, justement, qui est un équipement qui permet de faire de la médiation culturelle. visuel, d'aller vers les publics, d'aller les chercher, parce qu'on parle beaucoup d'aller vers, mais le aller chercher aussi pour faire venir les publics dans ces équipements et leur offrir aussi une programmation culturelle et les amener à se déplacer aussi dans d'autres lieux de la ville, parce que un des objectifs également, c'est de favoriser en fait la connaissance de tout ce qui existe aussi, et tout l'intérêt qu'on travaille avec la direction de la culture aussi, pour que les habitants prennent conscience qu'il existe beaucoup de choses, mais c'est comment je vais pouvoir lever les freins, parce que c'est souvent quelque chose aussi par rapport à ça. Et un autre axe qu'on développe aussi beaucoup en utilisant la culture, ça va être l'animation des espace public. Parce que ça, c'est un des objectifs forts du contrat de ville aussi, de sortir des murs. Et en l'occurrence, vous parliez des maisons de quartier, on travaille pas mal de projets avec eux, notamment Passerelle des Arts, qui est un beau projet qui va se mener encore cette année, où l'objectif est sur 3 ou 4 mercredis après-midi sur la période de mai-juin, d'avoir aussi des après-midi culturels sur le quartier Bulson. Et cette année, il y aura une extension aussi sur Maison-Blanche à faire, voilà, travailler des ateliers, permettre aux habitants de descendre de leur tour et de pouvoir aussi profiter des actions culturelles de ce type.
Avec Culture du Cœur, tout à l'heure, nous parlions de problématiques parfois pour les personnes de légitimité. Quand elles se rendent dans un lieu culturel, elles ne se sentent pas légitimes. Est-ce que toutes ces actions qui sont menées dès la maternelle, même plus petit, puisque les maisons de quartier nous ont parlé vraiment de projets niveau crèche, enfin pour l'âge des crèches, est-ce qu'ils sont, ils s'inscrivent aussi dans cette la légitimité rejoint l'émancipation, mais est-ce qu'il y a vraiment aussi toute cette volonté-là que les gens arrêtent de se poser la question de est-ce que c'est fait pour moi?
C'est l'idée de désacraliser quelque part. On a aussi cette chance d'avoir des cités éducatives où on travaille aussi ces questions-là, justement de permettre aux habitants de se dire, ben, il y a une opération ou quelque chose qui se passe, avoir la curiosité de se dire, ben, bien entendu que c'est complètement accessible. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un travail de long terme. Tout l'intérêt de ce qui se passe dès l'école, de travailler aussi pour permettre de se rendre compte que oui, il n'y a pas de barrière en fait. La culture, elle s'adresse à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu en faire un axe fort, en tout cas, de ce nouveau contrat de ville au travers de l'axe émancipation, justement pour continuer à travailler tout ce qui a déjà été mené en fait.
Oui, je pense, je regarde mon collègue, mais... Parmi tous les invités qu'on a eus ce matin, il y a quelque chose qu'ils avaient tous en commun, c'est le fait de favoriser le temps long pour les actions, parce qu'il faut du temps pour aller vers ou faire venir dans les deux cas.
Alors c'est un peu parfois la complexité, hein. Je vais parler du côté des financements, parce qu'en matière de politique de la ville, on a cette chance quand même d'avoir un budget qui nous permet d'apporter un soutien aux structures associatives. On fonctionne effectivement avec un appel à projet, donc qui est annuel, donc pour entretenir ce que vous évoquiez sur la durée, ça peut parfois être compliqué, mais on a mis aussi en place un fonds d'initiative micro-projet qui va permettre en fait justement au-delà de cet appel à projet, tout au long de l'année, dès qu'une structure associative ou des habitants qui ont envie de monter des projets puissent déposer en fait tout au long de l'année, et là c'est l'équipe de la politique de la ville qui va pouvoir les accompagner au développement de leur projet.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les itinéraires, par exemple? Là, on est en milieu, on attaque bientôt le troisième trimestre.
C'est exactement ça.
Est-ce qu'il est possible d'avoir un retour sur... Il y a déjà beaucoup d'actions, beaucoup d'itinéraires qui sont terminés pour cette année scolaire 2023-2024. Des retours sur l'édition qui nous concerne actuellement?
Les retours, je les ai pas encore directement, puisqu'on vient seulement d'adresser. Vous l'avez souligné, l'année n'est pas terminée, donc certains itinéraires sont encore en cours.
La fin d'année moins lourde au niveau du programme.
Et un itinéraire, effectivement, alors c'est pas exactement un temps long, mais tout de même, c'est au moins 3 séances. Donc ça peut tout à fait être une séance au premier trimestre, une au second, une au troisième, justement pour qu'il y ait cette récurrence en fait de l'action et que ce soit pas un one shot. On vient, on repart et on sait pas trop. On n'en retire pas pas quelque chose d'un peu fort et d'un peu profond. On a envoyé un questionnaire justement à tous les enseignants pour qu'ils puissent nous faire leur retour. Et puis il y a le même qui sera adressé aux structures pour qu'on soit bien certain que l'adresse est bonne, que les 66 itinéraires qui ont été proposés cette année vont dans le bon sens. Alors a priori, on n'est pas trop inquiet parce que tous les ans, en deux semaines, les 250 créneaux, propositions qui sont ouverts, alors à tous les scolaires, hein, ça va effectivement de la maternelle et la demande est très très forte pour les tout petits. Et du coup, on est ravis d'avoir des structures culturelles qui sont OK en fait pour faire des propositions pour les tout petits, parce que ça leur demande beaucoup de temps de travail de se dire qu'on va faire un contenu pour des 0-3 ans, un contenu pour des lycéens. Tout ça, c'est du temps démultiplié, mais tous les partenaires répondent présents. Ils sont plus de 40 cette année à avoir rejoint le dispositif et ça nous a permis de toucher 6000 élèves. Donc 6000 élèves, c'est important à l'échelle de la ville de Reims, c'est quasiment un tiers des élèves. Et dans l'ensemble, on a des retours qui sont extrêmement positifs. Parce que ça a permis en fait de proposer une offre commune. Enfin, l'idée des itinéraires, c'est ça, hein, c'est que chaque structure culturelle fait des propositions pour le jeune public. Et là, c'est de réunir toutes les structures culturelles sur le même programme. Et elles ont effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la liberté de croiser leurs disciplines, leurs esthétiques et d'être totalement libres sur on va travailler l'éducation aux médias avec Radio Primitive et on y mettra de la musique contemporaine. Il y a beaucoup de croisements. On le fait aussi aujourd'hui avec, par exemple, sur le cycle de l'eau où on va pouvoir découvrir les termes romains au musée Saint-Rémy et puis ça ira au bout avec la direction de l'assainissement. Voilà, c'est des choses extrêmement complémentaires et je crois que c'est ce qui séduit la plupart des enseignants qui s'inscrivent de manière tout à fait autonome et volontaire à la fin de l'année et qui permettent encore une fois de sensibiliser à peu près 6000 enfants par an.
Quand on parle des itinéraires, on parle d'environ de 6000 enfants par an. Si on parle d'autres équipements de la ville de Reims, comme le conservatoire, le conservatoire ou encore le planétarium, on est sur un chiffrage. Je ne vais même pas essayer, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais
On travaille sur ce chiffrage, quoi. Et on fait beaucoup travailler en fait les structures sur ce chiffrage qui est important. Il faut qu'on ait un retour qualitatif, mais quantitatif c'est important aussi. Du coup effectivement on embête un peu toutes les structures culturelles en leur demandant des tableaux qui nous permettent justement d'avoir un retour sur cette fréquentation, elle est importante. Et alors les itinéraires, ils sont justement nés de ça il y a maintenant 4 ans. Puisqu'en ayant fait un premier total de tous les équipements culturels de la ville, alors je dis tous, c'est pas exactement exhaustif parce qu'on n'était pas allé chercher les plus petits, mais qui ont aussi une action importante, on était à peu près à 60 000 scolaires accueillis dans tous les établissements culturels de la ville. Le planétarium, par exemple, c'est 16 000 scolaires à l'année. Donc, en se disant qu'il y avait 60 000 créneaux possibles et qu'on avait 20 000 maximum scolaire sur Reims, comment se fait-il que certains enfants n'aient jamais mis les pieds dans une structure culturelle?
Oui, c'est
incroyable. Ça voulait bien dire que certains y allaient 5 fois par an et d'autres zéro. Donc l'enjeu des itinéraires, c'était de se dire vraisemblablement, il y a de la place pour 3 séances pour chaque enfant par an. Et donc le fait d'avoir comme ça généré une offre entre guillemets collective et qui soit publiée en même temps, ça a permis de croiser les publics, de faire en sorte que certains, on le sait en fait, il y a des partenariats un peu forts entre tel bibliothécaire et telle école et du coup des partenariats qui ont tendance à se renouveler d'année en année, même si les enfants ne sont pas les mêmes parce qu'ils changent de classe et ça a permis un peu de décloisonner ça en fait et de faire en sorte que les structures travaillent davantage ensemble et puis surtout que les publics puissent circuler.
Alors on va sans doute retourner en Radio Primitive bientôt au planétarium parce qu'on y est bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du nouvel équipement du planétarium, même si on reverra ça avec les équipes du planétarium, mais il y a de la nouveauté.
Oui, effectivement, c'est pas le musée nomade, mais c'est le planétarium nomade, puisqu'on a on a conscience que pour aller vers, en fait, il faut aussi développer des outils comme ça qui soient itinérants. Alors on est un peu triste, c'est le petit aparté parce qu'on sait que le bibliobus pourra plus circuler à partir de 2025 parce que pour des raisons critères, le bibliobus il pourra plus circuler dans le centre-ville, mais on est en train de trouver d'autres stratégies justement pour pouvoir continuer à assurer ce service de lecture publique. Et le planétarium effectivement a inauguré il y a quelques semaines un planétarium mobile. Alors c'est une C'est une structure gonflable de forme sphérique et qui permet d'avoir accès au ciel actuel avec voilà, un médiateur. On est une vingtaine assis au sol et à pouvoir comme ça regarder le ciel, à pouvoir se projeter dans d'autres galaxies. Et donc cet outil, il a vocation effectivement à se développer partout sur le territoire, rémois et puis au-delà bien sûr.
Et pas forcément qu'à destination des scolaires.
Ah non, pas du tout, pas à destination que des scolaires. Tous ces dispositifs, bien sûr, ils peuvent s'adresser... l'éducation artistique et culturelle, c'est toute la vie. Voilà. Donc nous, on fait un petit focus sur le jeune public, mais c'est toute la vie.
On ne peut pas imaginer un hippo-bibliobus ? Non, je suis perturbée par cette... ce bibliobus qui ne peut plus rouler.
Bah, je vais noter l'idée, Émilie.
Ce serait sympathique. En plus, il y a de plus en plus de rues piétonnes, donc pourquoi pas. Au niveau de politique de la ville, est-ce qu'il y a déjà des temps forts identifiés ? Alors, il y a beaucoup d'actions portées par beaucoup d'acteurs, mais est-ce qu'il y a des grandes nouveautés ou des grands temps forts à venir ?
Alors, on est en pleine préparation puisque les subventions attribuées aux structures associatives viennent d'être votées fin mars. Donc là, les équipes sont en train de justement centraliser tout ce qui va se passer dans les quartiers. Pas plus tard que cette semaine, il y avait une réunion dans le quartier Croix-Rouge justement où tous les acteurs ont à cœur de pouvoir communiquer sur ce qui va se faire. Donc là, il va y avoir un flyer qui va sortir prochainement sur toutes les actions à compter du mois de juin, juillet, août, voire même septembre dans le quartier Croix-Rouge. Et on va avoir aussi la même méthodologie pour les autres quartiers prioritaires. Donc tous ces événements-là seront publiés sur le site, bien entendu, de la ville de Reims pour porter à connaissance du plus grand nombre parce que ces événements qui sont dans les quartiers s'adressent évidemment au public habitant les quartiers prioritaires, mais pas que. On a quand même des événements à une ampleur telle que l'été s'affiche à Croix-Rouge, par exemple, qui est une action qui dure 3 semaines et qui s'adresse effectivement à tous les Rémois de pouvoir venir à un moment donné se poser et profiter des activités qui seront présentes dans le quartier.
On pourrait presque dire que c'est une spécificité de la plupart des actions de politique de la ville. On a parlé tout à l'heure du fait de sortir dehors, d'aller dans les quartiers, mais ces événements sont quasiment ouverts tout le temps, à tous, qu'on soit résident de ce quartier-là ou pas.
Tout à fait, oui, c'est je vous évoquais tout à l'heure, c'est un des objectifs de proximité aussi de la politique de la ville, cette volonté d'aller vers les habitants, de pouvoir échanger sur comment ils vivent leur quartier, mais comment ils vivent ce quartier aussi dans la ville. Et quand on mène des actions, par exemple, comme celle de Passerelle des Arts, où plusieurs mercredis après-midi, un programme culturel est proposé, bien entendu, il s'adresse en fait à tous les habitants. Et c'est tout l'intérêt justement aussi pour permettre de valoriser l'image des quartiers. Souvent, quand on dit un quartier en politique de la ville, on a tendance à avoir un regard un peu particulier. Et c'est aussi un des objectifs de montrer que dans les quartiers, il y a de la ressource et que c'est important de pouvoir aussi communiquer positivement sur ce qui se passe dans les quartiers.
Avec des très belles propositions artistiques.
Tout à fait, oui,
on est... Qu'elles soient faites par les habitants ou par des intervenants extérieurs.
Voilà, on a la chance d'avoir à Orgeval le facteur théâtre avec le Gourmi qui propose une programmation culturelle intéressante et ce qui permet aussi que les habitants des quartiers en profitent, mais que toute personne habitant la ville de Reims puisse s'y rendre aussi.
Bien, je vous remercie. On se reverra forcément en cours d'année pour parler des différentes actions portées soit par politique de la ville, soit par direction de la culture, soit par les deux, ce qui est plus généralement le cas. Nous, on va faire une petite pause musicale. On se retrouvera juste après. On a d'autres invités qui nous attendent pour parler médiation culturelle, hyperforum, cartonnerie, éducation populaire. À tout de suite.
Radio Primitive en direct de la cartonnerie pour Hyperforum. Hyperforum.